Vous écoutez Radio Rapatrie, prenons la parole sur l'antenne de Radio Campus 99.5 FM.
Vous venez d'entendre les élèves du collège Jacques de Cour. Vous êtes bien sur Radio Rapatrie Saint-Pierre-des-Corps et nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Radio Rapatrie, prenons la parole. Une émission par des habitantes, habitants, des acteurs locaux qui vivent, agissent et s'engagent dans notre quartier de la Rapatrie à Saint-Pierre-des-Corps. Créée à l'initiative du Conseil citoyen pour informer et échanger sur les actions menées à la Rapatrie.
Pour cette émission de Radio Rapatrie de ce 6 juin 2018, vous écouterez successivement un communiqué du Conseil citoyen de soutien suite aux actes de violence qui ont eu lieu ce 24 mai, une interview de Claudine qui a animé un temps de lecture à l'occasion de la journée du 8 mars à la Maison de l'Aubrière, 8 mars, journée internationale de lutte des droits des femmes. Ensuite, une interview d'un technicien de Tours Métropole réalisée en février lors d'une journée de sensibilisation sur le ramassage des ordures ménagères dans le quartier et la lettre du Conseil citoyen en réponse. Et nous terminerons l'émission en parlant des projets de rénovation urbaine.
Voici le communiqué des membres du Conseil citoyen de la Rapatrie en date du 26 mai. Sérénité et solidarité au cœur de chacun de nous. Nous avons apporté tout notre soutien et notre solidarité active à la gérante et au personnel de l'enseigne Coiffeco, meurtrie par la violence qui a eu lieu le 24 mai. Nous désapprouvons toutes les incivilités et nous condamnons tout acte de violence qui se déroule à la Rapatrie comme sur d'autres quartiers. Nous avons à cœur de développer la solidarité entre tous les habitants. Malgré les difficultés de la vie, nous réaffirmons que le dialogue, le respect mutuel et la sérénité sont nécessaires pour apaiser toute tension, ce dans un contexte où la police, comme la justice, ont à œuvrer pour la tranquillité de chacun d'entre nous, en faisant en sorte que les bandes rivales de trafic, gangs, soient démantelées. Nous réitérons notre appel à la sérénité où chacun, chacune a droit à la parole pour faire reculer la peur et pour briser la loi du silence. Réaffirmer notre refus de ces violences, c'est être ensemble plus fort pour nous faire entendre contre ces règlements de compte et pour le bien vivre ensemble dans notre quartier.
Vous écoutez Radio Rapatrie, prenons la parole sur l'antenne de Radio Campus 99.5 FM.
Bonjour Claudine.
Bonjour Elisabeth.
Claudine, bienvenue sur Radio Rapatrie, la radio donc, qui donne la parole aux habitantes et habitants du quartier de la Rapatrie à Saint-Pierre-des-Corps, aux acteurs locaux du quartier. Claudine, tu as participé aux 3 jours d'animation autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, organisée par le Conseil citoyen à la Maison de l'Aubrière. En effet, cette année, le Conseil citoyen a tenu à valoriser les parcours des femmes du quartier au travers de portraits, à favoriser leurs espoirs autour de cette journée et également à inviter les habitants à visiter 3 expositions dont nous reparlerons ultérieurement. Alors, à cette occasion, nous t'avons invité des temps de lecture qui ont été fort appréciés. On veut revenir sur ce sujet. Temps de lecture dont le thème est « Pour l'amour et l'égalité ». C'est un thème que tu as choisi, tu avais donc liberté d'expression, sachant par ailleurs qu'il est bon de savoir que tu es passionné de lecture, c'est une passion dont tu peux nous parler, et que tu as été bibliothécaire pendant de longues années à la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Alors, d'où te vient cette passion des livres et de la littérature, des textes en général?
Pour moi, le livre, c'est la liberté. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais adolescente. Et tout de suite, j'ai eu envie de faire ce métier. Alors, je suis passée d'abord par la librairie avant d'arriver en bibliothèque. Mais c'est une amitié que j'ai eue avec une documentaliste de collège. Comme quoi, je crois beaucoup à ce que l'école peut apporter en maturité et en plaisir d'aller vers vers l'ailleurs, et l'ailleurs pour moi c'est la lecture. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on m'invite à votre comité, là ça m'a beaucoup plu de rencontrer ces gens, d'arriver avec un choix de livres. Alors, en plus je te remercie Elisabeth parce que tu m'as effectivement laissé toute liberté. Quand tu m'as dit ce sera pour la journée de la lutte des femmes, j'ai pensé tout de suite amour et femmes, parce que pour moi... il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, les sentiments positifs vis-à-vis des personnes, qu'elles soient femmes ou hommes. Donc j'ai beaucoup apprécié. Ceci dit, je suis aussi une femme en colère parce que autour de ce 8 mars, c'était les vacances scolaires et j'ai eu l'occasion de lire les listes de deux jeunes filles qui préparent le bac de français. Donc ils sont en première, ce sont des jeunes adolescentes très vives, très intéressantes, et elles m'ont montré leur liste. Et là, au scandale tout de même, une n'avait aucune écrivaine femme dans sa liste. Elles sont toutes les deux en littéraire, c'est-à-dire qu'elles ont 30 textes à présenter. Une n'en avait aucune, et l'autre avait en cursif, c'est-à-dire vraiment dans les petites lignes en dessous, là, ce dont on peut parler quand on dialogue avec le professeur, Louise Labbé. Ça ne fait pas trop de mal, Louise Labbé, tout de même. Quand je leur ai dit « mais il existe plein de femmes écrivaines, pourquoi vous n'avez pas George Sand, pourquoi vous n'avez pas Marguerite Duras, pourquoi vous n'avez pas Nathalie Sarraute et tant d'autres », vraiment j'étais scandalisée. Alors du coup, je suis venue avec mon bâton de pèlerin, si on peut appeler ça comme ça, et toujours Elisabeth m'avait dit « il y aura peut-être des enfants », donc ça, elle m'a dit que j'étais bibliothécaire. Effectivement, j'ai été bibliothécaire aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et j'avais amené un petit album qui dit beaucoup de choses. Il s'appelle « Histoire d'un petit garçon qui était une petite fille ». J'ai eu l'occasion de lire cet album. C'est l'histoire d'un boucher, terrible boucher, qui n'attend de sa femme Périne qu'elle lui fasse un fils. Mais cette femme, eh bien, elle accouche de fille. Et quand arrive la dernière, qui, ma foi, est une fille, elle est obligée de dire à son mari, espèce de fou, que c'était un garçon. Sinon, il l'aurait tué, il l'aurait coupé en morceaux, enfin bref. Donc voilà, comment cet homme est puni et comment ses filles, ses petites filles vont enfin lever la tête. Et voilà, ça c'est bien nécessaire. Et en littérature, on peut lever la tête. J'avais aussi préparé un roman pour adolescents. Je n'ai pas eu l'occasion de voir des adolescents ces réunions, mais bon, j'ai quand même parlé de ce bouquin parce que j'estime que si on n'a pas les adolescents forcément devant nous quand on est adulte, c'est normal, ils ont tellement d'activités, tellement d'autres choses à faire. On peut aussi leur susurrer une lecture facile qui démarre bien et qui permet d'avancer dans cette égalité entre les hommes et les femmes. Et je veux rendre hommage à Mario de Muraille, qui est une très grande écrivaine qui écrit essentiellement pour adolescents, mais qui a une grande, grande plume. J'ai présenté Maïté Coiffure. Maïté Coiffure, c'est un roman qui démarre tout de suite, chose qui est tout à fait intéressant pour le jeune public qui est en, disons, quatrième, troisième. C'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un milieu social, disons, plutôt favorisé, papa médecin et tout. Ça ne veut pas dire que cet enfant s'occupe plus de lui que quand on vit dans un milieu plus populaire. La preuve, c'est que quand il arrive le soir et qu'il dit à ses parents qu'il a un stage à faire, il est en troisième, vous savez tous qu'il y a ce fameux stage troisième, mais là, le père qui est médecin, lui, ne s'en est pas préoccupé, et il ignore et montre à quel point il dédaigne tout cela. Et c'est la grand-mère qui est là, ce jour-là, qui dit « Oh ben mon petit gars, si tu as un stage à faire, j'ai vu que la coiffeuse en bas, elle prenait des apprentis, alors elle doit bien prendre aussi des petits stagiaires. » Alors vous imaginez le père médecin, chirurgien, je ne sais quoi, qui s'offusque que son fils puisse devenir, puisse aller faire un stage d'une semaine chez un coiffeur tout de même. Bref, eh bien, à défaut de trouver de stage, le petit garçon va faire ce stage dans ce salon de coiffure. Et là, il va découvrir la vraie vie, il va découvrir ce qu'est la profession, les difficultés de ces jeunes apprentis ou de ces jeunes coiffeuses. Ce coiffeur, qui, ma foi, oui, vous l'avez deviné, il est homosexuel, ça arrive. Et oui, il découvre la vie. Il se trouve que la coiffeuse, elle reste, la patronne, elle reste toujours derrière le comptoir. Ben oui, elle est handicapée. Enfin bon, cet enfant, en une semaine, va s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux aux hommes et aux femmes et à l'amour, parce qu'il va aussi découvrir tous ces sentiments-là qui les bouleversent. Bon, comme c'est un roman pour adolescents et que Mario de Muraille, elle dit les choses, mais elle souhaite toujours que les fins se finissent bien, ça finira bien, soyez tous rassurés.
Alors cela, c'était pour la partie enfance-adolescence, mais bien sûr, tu nous as réservé d'autres surprises. Je te propose d'écouter ensemble une très belle chanson de Julien Clerc, « Femme, je vous aime ». On se retrouve aussitôt après.
Quelquefois, si doux, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps dure, longtemps dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Si drôle sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, au regard qui frôle, quelquefois si seul. Oui, mais si seul.
Vous êtes sur Radio Rabatterie, hébergée par Radio Campus 99.5 FM. Nous retrouvons Claudine qui nous dit sa passion des textes et des lectures faites autour de la Journée internationale des femmes le 8 mars à la Maison de l'Aubrière. Alors Claudine, tu avais d'autres surprises, d'autres lectures?
Je suis venue aussi avec des livres pour adultes, bien sûr, et avec une découverte que j'ai faite récemment, celle de Charlotte Delbault. Il se trouve que la bibliothèque de Saint-Pierre avait invité au mois d'avril une jeune femme, une jeune écrivaine qui s'appelle Valentine Gobi. Et Valentine Gobi a fait la découverte de Charlotte Delbault elle-même, et nous en a parlé et a écrit un livre, tellement elle a été subjuguée, comment elle a été émerveillée par l'écriture, la force de l'écriture de Charlotte Delbault. Alors, pour tout dire, moi, les livres de Charlotte Delbault, je les ai toujours vus à la bibliothèque de Saint-Pierre, y compris quand je travaillais dans l'ancienne, pour ceux qui auraient passé les 50 ans, qui connaîtraient l'ancienne bibliothèque, eh bien, ils y étaient déjà, parce que avant l'actuelle bibliothèque, Ginette Martin, à qui je rends hommage, avait acheté ces livres-là, et donc ils étaient à la bibliothèque depuis 40 ans. Dès leur parution d'ailleurs chez Minuit. Mais je ne les avais jamais ouverts, voilà. Il est toujours temps, n'est-ce pas? Donc j'ai ouvert « Aucun de nous ne reviendra ». Et voilà, ça a été une révélation. Je peux dire maintenant, parce que depuis j'ai lu d'autres livres d'elle, j'ai lu ses biographies, j'ai écouté Valentine Gobi, etc., que Charlotte Delbault, le livre qu'elle a écrit, « Aucun de nous ne reviendra », se place au même niveau, et vraiment au même niveau dans la littérature concentrationnaire que Primo Levi, « Si c'est un homme ». Alors, « Si c'est un homme » est étudié en classe, les élèves le connaissent, alors j'aimerais vraiment de tout mon cœur que l'on fasse connaître Charlotte Delbault au même niveau que Primo Levi. Elle le mérite vraiment. Et du coup, j'ai vraiment recherché toutes ses œuvres. Et elle a écrit également du théâtre. Enfin, c'est une femme qui a beaucoup combattu toutes les idées qui allaient contre la liberté. Et c'est une femme libre, une femme qui était mariée avec un communiste qui a été tué, fusillé au Mont Valérien dès le début de la guerre, qui a connu Auschwitz, qui a connu Ravensbrück, et qui une fois qu'elle aura écrit Aucun de nous ne reviendra, elle veut vivre, elle va s'opposer à toutes les causes qui lui paraissent contre la liberté, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la torture en Algérie. Elle va s'opposer aussi au camp de concentration, enfin au camp d'Urs. Elle sent déjà que ce n'est pas tout à fait la démocratie dont elle rêvait, etc. etc. À ce titre-là, elle ne va pas être reconnue parce que, justement, elle était un peu inclassable, quoi. C'est vraiment une femme libre, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'elle n'a pas été reconnue. Bon, en plus, elle a été publiée chez Minuit et les éditions de Minuit passent rarement en poche. Après, donc, du coup, ben, elle n'a pas eu la notoriété. Et puis, ben, voilà, ne nous cachons rien, c'est une femme. Et si Primo Levi a eu le succès, qu'il mérite, hein, bien sûr, je ne reviens pas sur la qualité littéraire de Si c'est un homme, Charlotte Delbault, elle, n'a pas eu cette chance. Alors maintenant, attendons, c'est ce qu'a dit Valentine Gobi à la fin de sa conférence, attendons que des thèses universitaires sortent et cela fera connaître Charlotte Delbault. En attendant, si vous souhaitez lire une petite pièce de théâtre très agréable, et là, qui se trouve en format poche chez Flammarion, pour un petit prix modique de 5 euros, vous avez une pièce qui s'appelle « Ceux qui avaient choisi ». Dans cette pièce, elle raconte, elle se met en scène dans les années 50 en Grèce. Elle est dans un café, elle lit un livre d'art grec, et un homme, un monsieur grand, blond, jeune, va vers elle avec sourire parce qu'il reconnaît son livre. Il est l'auteur du livre qu'elle lit. Il est allemand. Vu l'âge qu'il a, il a forcément été nazi. Alors, va s'engager une conversation entre Charlotte, cette ancienne déportée d'Auschwitz, et lui, le nazi, qui va essayer de se protéger en disant « Ben oui, mais moi j'étais en Grèce. Moi, je profitais de mon costume, de mon uniforme pour faire des recherches plus poussées sur ma passion qui était l'Antiquité grecque. » Oui, donc, Ensuite, dans le deuxième acte, elle revient sur les dernières paroles qu'elle a pu échanger avec son mari avant qu'il soit fusillé. Et le troisième acte, on retrouve nos deux personnes, cet Allemand, ancien nazi, bon, qui dit avoir été très jeune, ne pas avoir compris, etc. Et elle, va-t-elle pardonner ?
Nous faisons une petite pause musicale et nous écoutons Morane qui chante « Toutes les mamas du monde ». Nous retrouvons Claudine. Claudine, tu nous as parlé également de deux écrivaines, Irène et Anne. Peux-tu nous en dire plus ?
J'ai profité aussi de ce moment qu'on m'a laissé pour parler d'Irène Némirovski, qui pour moi aussi est une grande écrivaine qui n'est pas assez connue et qui aussi a été fauchée pendant l'enfer nazi. Bon, elle était juive. Et puis, je suis restée sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient sûrement à cœur, mais peut-être que ces femmes se sont battues à la fois pour un pays libre, mais aussi pour une liberté de femme. Donc, je voudrais parler d'Anne Frank et de son journal. connu, les jeunes le lisent peut-être encore, mais j'aimerais insister aussi sur le style littéraire qu'avait cette jeune fille de 13 ans. C'est absolument incroyable. C'est un conseil que je vous donne, mais reprenez le vrai journal d'Anne Frank, parce qu'en fait, vous le savez, l'auditeur le sait sûrement, mais le père d'Anne Frank a publié le journal pour un éditeur jeunesse. C'était ce qu'elle souhaitait au départ. Elle voulait être publiée. Elle pensait pas que ce serait son journal qui serait publié, mais elle voulait écrire dans une édition de jeunesse. Donc son père a publié le journal retrouvé dans une édition de jeunesse, mais pour cela il a beaucoup édulcoré. Hein. Il a supprimé tout ce qui pouvait parler de l'intimité d'Anne et surtout des difficultés de vie entre elle et sa mère, hein, parce que bon, il y avait quand même quelques conflits tout à fait normaux, hein, entre une fille et une mère, mais donc ça, le père les a supprimés. Et du coup, aujourd'hui, on peut relire les trois versions du journal, parce qu'en fait, il y a celle de la première publication, celle avant les corrections d'Anne, parce que Anne corrigeait régulièrement son journal et y ajoutait, faisait des ajouts, faisait des suppressions, enfin, corrigeait, quoi. Donc, vous avez maintenant en poche quelque chose qui est vraiment l'édition littéraire qu'a écrit Anne. Je vous conseille celle-ci, le journal d'Anne Frank, préfacé par Eric Emmanuel Schmitt, ce qui est également un grand écrivain qui écrit beaucoup de théâtre et qui a un regard très perspicace. C'est une édition plus augmentée de photographies, hein, donc avec cette préface. Et ça vaut 7,10 €. Ça a été publié en 2013. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'en livre de poche, ceux que vous achèterez dans le commerce, ce sont les bonnes éditions. Et j'insiste parce que, par exemple, elle va vous parler de ses règles avec un aplomb pas du tout habituel, on est encore très pudique, et elle, non, le journal doit tout savoir, ses relations avec son camarade qui est enfermé comme elle dans ce placard, ses envies, ses amours, et elle le dit, mais alors avec un vocabulaire, avec un plaisir d'écrire qui est vraiment extraordinaire. Elle s'adresse toujours à Kitty, donc là je vous lis un tout début de lettre du samedi 25 mars 44, donc peu de temps avant qu'elle soit arrêtée. « Chère Kitty, quand on est soi-même en train de changer, on ne s'en aperçoit pas avant d'avoir changé. J'ai changé, et même en profondeur, totalement et en tout. Mes opinions, mes conceptions, mon regard critique, mon aspect extérieur, mes préoccupations intérieures. Tout a changé, et d'ailleurs, pour le mieux, je peux l'affirmer sans crainte, car c'est vrai, etc., etc. » Vous voyez, elle est toujours en train de raconter les faits, donc ça, c'est ce qu'on retient souvent d'Anne Frank, mais en même temps, elle analyse en profondeur comment elle grandit. Évidemment, c'est un livre qui parle de la guerre, parce qu'elle entend à la radio, ils essaient d'écouter et de savoir d'où ils en sont. Donc ça parle de la guerre, mais ça va beaucoup plus en profondeur sur ce qu'est une femme qui grandit et qui écrit vraiment très très bien. Voilà, un grand hommage à Anne Frank. Je pense que je vais en terminer là. Voilà, ce sont des portraits de femmes. Ce jour-là, je sais que j'ai parlé de d'autres femmes. Il y a tant et tant d'écrivaines femmes. Alors voilà, n'hésitez pas, ou allez dans les librairies, dans les bibliothèques et demandez conseil. Il y a plein d'écrivaines femmes de grande, grande qualité qui méritent d'être lues.
Ben merci Claudine. Nul doute que pour 2019, autour de cette journée internationale des droits des femmes, nous nous recontacterons pour continuer dans notre quartier de valoriser les parcours de femmes et pourquoi pas demander aux femmes d'écrire un message plus particulier, plus personnel. Ça peut être un moyen de favoriser cette envie d'écrire, de lire et pourquoi pas de dire des textes. Donc à très bientôt alors, merci.
À très bientôt, ce sera vraiment avec plaisir que je reviendrai vous voir et parler de livres, parler de lecture.
Maintenant, nous écoutons le technicien de Tours Métropole, interviewé le 21 février 2018.
Bonjour Monsieur Brazero, vous êtes technicien à Tours Métropole.
Effectivement, je suis responsable de la communication au sein du service déchets propreté de Tours Métropole.
Vous êtes présent aujourd'hui au centre commercial de Saint-Pierre-des-Corps pour une opération de sensibilisation sur les encombrants déchets ménagers. Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de sensibilisation dans les quartiers ?
Oui, effectivement, ça arrive qu'on soit contacté par les riverains, les comités de quartier pour nous solliciter, pour procéder à une opération de sensibilisation, de communication auprès des riverains, des commerçants, comme c'est le cas ici, pour expliquer un petit peu ce qu'il faut faire avec les déchets, le recyclage, très important, les consignes de tri sélectif. On le voit notamment au stand où on pose un petit quiz, quelques questions un petit peu bien précises sur le recyclage, le devenir des déchets, qu'est-ce que deviennent des bouteilles plastiques, ça devient un t-shirt par exemple. Donc on est habitué effectivement à faire ce genre d'action.
Avez-vous les chiffres sur le volume d'encombrants par habitant dans l'agglo, dans la ville, sur le quartier ?
On a un chiffre clé, effectivement, on est à 7 kilos par an et par habitant pour les encombrants. C'est-à-dire que sur les 22 communes de la métropole, on a le service d'encombrants qui est gratuit pour les usagers en pavillon et bien sûr en immeuble collectif, de pouvoir nous déposer gratuitement sur un rendez-vous qui est pris au téléphone, un rendez-vous qui aura lieu sous 8 jours en général. Donc c'est un service gratuit. N'hésitez pas à nous contacter.
Alors, et quel numéro alors ?
Alors, 02 47 80 12 12.
02 47 80 12 12. Alors, est-ce qu'il y a des problématiques particulières ici en raison de la proximité des habitations et commerces ?
Oui, effectivement, il y avait un problème de présentation des déchets qui était plutôt présenté en vrac devant les commerçants ou à côté des pas de porte. Donc, avec aussi des dépôts de ces sacs au pied des points d'apport volontaire plutôt réservés, entre guillemets, aux résidents du Grand Mail juste derrière. Donc, il a été mis en place il y a déjà quelques semaines, début d'année, des block bags. Donc, c'est des grandes poubelles qui sont réservées exclusivement aux commerçants bloqués par des poids, des lestes en béton très lourd pour pas que les bacs se baladent sur le parking et que les commerçants puissent déposer tous leurs déchets convenablement dans ces bacs que l'on referme avec le grand couvercle dessus pour que ce soit plus propre pour tout le monde.
D'accord, merci. Quels sont les moyens juridiques ou autres pour être entendus par les personnes qui ne respectent pas toujours les consignes de dépôt des déchets ménagers ?
Oui, effectivement, mais avant d'utiliser la force, on va dire, on va essayer de trouver un consensus. C'est-à-dire aller expliquer avec les ambassadeurs de tri aux commerçants ou aux riverains aussi, s'il y a des riverains qui font des dépôts sauvages. Souvent, on peut regarder dans les poubelles s'il n'y a pas une adresse et un nom qui apparaît, hein, et aller confronter directement la personne concernée. Ça, c'est le consensus. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Après, on peut essayer de mettre en place un peu plus de vigueur, de rigidité. Et on travaille souvent avec la police municipale, hein, des communes concernées, pour une application du décret sur l'interdiction de dépôts sauvages. Donc avec surtout une amende qui peut aller jusqu'à 2 500 € et la confiscation du bien. Imaginons si quelqu'un est venu déposer des encombrants avec sa voiture, il peut avoir 2 500 € d'amende et la confiscation de son véhicule.
Est-ce que vous comptez renouveler cette opération de sensibilisation ?
Oui, on pourrait revenir, imaginons, cet été ou avant l'été, avant les absences de juillet-août, mais mai, juin ou la reprise de septembre, peut-être avec les centres de loisirs le mercredi, travailler avec d'autres personnes pour amplifier cette opération de sensibilisation qui a encore plus de monde. Et puis on reviendrait... Après quelques mois, effectivement, les gens auront d'autres questions certainement, je pense, à nous poser. Et puis, on peut leur proposer déjà, dès aujourd'hui, de venir visiter le centre de tri. En général, ça se fait à 18h. C'est à la Grange David, à La Riche. C'est à 18h, c'est gratuit. On vous ouvre les portes du centre de tri. Il suffit juste de nous appeler au 02 47 410 555 pour réserver votre créneau, nous dire « je préfère venir à telle date ». Et vous verrez un monde tout nouveau pour vous, je pense. Pour les habitants qui ont des questions sur les consignes de tri, vous allez avoir toutes vos réponses.
On va répondre à ce rendez-vous et faire savoir que ça existe. Il y a un vrai travail d'éducation à la base qui nous paraît important. Merci Monsieur Brazero. En conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de dire particulièrement aux habitants du quartier de la Rabatterie ?
Alors, on a des très bons résultats dans la collecte sélective, hein, les poubelles jaunes. On a des bons résultats, les gens sont des bons trieurs. On est environ à 65 kilos de tri par an et par habitant. On est au-dessus de la moyenne nationale. Par contre, je voudrais juste conclure en disant qu'il faut continuer. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Il y a encore plein de choses. On échangeait tout à l'heure sur les futures consignes de tri, comme les barquettes plastiques aujourd'hui ou les pots de yaourt qui ne doivent pas être mis aujourd'hui dans la poubelle jaune. Dans quelques années, on refera une interview dans 2-3 ans et je pourrais vous dire cette fois-ci, il faut les mettre. Voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, en attendant, on va continuer de s'efforcer d'être au-dessus de la moyenne nationale. C'est un chiffre intéressant à faire connaître parmi les habitants du quartier de la Rabatterie. Merci beaucoup et puis au plaisir de vous rencontrer une prochaine fois. À la suite de cette interview réalisée auprès du technicien, nous réaffirmons en tant que membres du Conseil citoyen que la propreté est l'affaire de tous dans le quartier. Chacun et chacune doit respecter l'hygiène et notre environnement et ne pas déposer ses déchets et encombrants dans d'autres endroits que ceux prévus à cet effet. En appelant le 02 47 20 12 12, je répète 02 47 20 12 12, sachez que vous pouvez demander un rendez-vous pour faire enlever vos encombrants. Maintenant, je laisse la parole à un membre du Conseil citoyen qui explique notre démarche auprès de Tours Métropole.
Vous écoutez Radio Rabatterie, prenons la parole sur l'antenne de Radio Campus 99.5 FM.
Le Conseil citoyen s'est adressé à Monsieur Gallio, vice-président de Tours Métropole, le 14 avril 2018. Je vais vous lire donc le courrier que le Conseil citoyen a adressé à Monsieur Gallio. Monsieur le vice-président, en octobre dernier 2017, nous avions eu l'occasion de vous solliciter en tant que membre du Conseil citoyen de la Rabatterie, collège habitants et collège associations, au sujet de divers problèmes rencontrés sur les collectes des ordures ménagères, les échanges fructueux avec vos services en charge de résoudre un certain nombre de problématiques nous avaient permis de trouver des solutions satisfaisantes. Or, nous constatons depuis plusieurs semaines de nouvelles dégradations de notre environnement pour plusieurs raisons. Le ramassage des ordures ménagères n'est pas régulier et satisfaisant. Nous constatons parfois que vos services ramassent seulement une partie des déchets Depuis plusieurs jours déjà, les poubelles des commerçants n'ont pas été ramassées et débordent, occasionnant une accumulation importante de déchets, une gêne pour les riverains. Le déplacement de plusieurs poubelles installées sur l'allée du Grand Mail gêne considérablement les habitants, habitantes vivant à proximité. Vos services avaient trouvé une solution en mettant en place 4 à 5 poubelles collectives devant les anciens locaux à poubelles des commerçants. Et cette solution donnait satisfaction. Il ne nous semble pas juste de revenir en arrière sur ce point, ce d'autant que la procédure configuration proposée par vos services a été acceptée par les commerçants. Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir faire respecter l'environnement dans l'intérêt des riverains. Nous restons disponibles pour en discuter à tout moment, notamment lors des réunions du GUP, sous réserve qu'elles ne soient pas reportées ou en présence des partenaires. Nous profitons de la présente pour vous questionner au sujet de la journée de sensibilisation qui s'est déroulée au centre commercial le 21 février dernier. En effet, nous avons été avertis la veille de l'organisation de cette journée et aucune information n'a été communiquée aux habitants sous forme d'affichage dans les halls d'immeubles par exemple, ce que nous regrettons. Nous avons été un certain nombre de membres du Conseil citoyen à participer à cette opération qui aurait mérité d'être largement connue. Comment davantage sensibiliser sans l'information préalable ? Quelles procédures sont habituellement mises en œuvre pour populariser ce type d'opération? Telles sont les questions que nous nous posons. Nul doute que le moment venu, vos services auront l'occasion de renouveler ce type d'opération dans l'intérêt général. Dans l'attente, nous restons disponibles. Recevez, Monsieur le Vice-président, nos salutations distinguées. Les membres du Conseil citoyen de la Rabatterie.
Too much talking.
sur les projets de rénovation urbaine à la Rabatterie, après que le Conseil citoyen de la Rabatterie ait consulté les habitants et les habitantes sur les différents scénarios envisagés sur les trois secteurs, centre commercial, place des cosmonautes autour de la chaufferie, bord de Loire, Madeleine, Mastaba. Sur le site La Maison du Projet, sur le site internet Maison du Projet, nous avons refait les remarques suivantes. Premièrement, que ce soit en matière de problèmes sur le bruit, rodéo, avion, ou sur la démolition ou reconstruction du centre commercial sans logement, les avis et consultations des habitants existent et nécessitent d'être pris en compte. Deuxièmement, la Rabatterie est à ce jour le seul quartier prioritaire de l'agglomération Tourangelle à ne pas être desservi par le tram. Peut-on mépriser à ce point 5000 habitants et habitantes qui vivent dans ce secteur ? Nous appelons les habitants, tous les habitants, à exprimer jusqu'au 8 juin, dans le cadre de la consultation ouverte à Tours, nous appelons les habitants et les habitantes à s'exprimer jusqu'au 8 juin sur cette possibilité ou non de construction d'un tram qui concerne toute la population. Troisièmement, il convient que la dalle municipale du Grand Mail et ses abords soient complètement rénovés pour être en harmonie avec les rénovations énergétiques payées par les copropriétaires. Quatrièmement, créer un jardin entre la résidence du Grand Mail et le nouveau centre commercial dans les conditions proposées par les habitants. Ramasser obligatoirement les ordures ménagères du centre commercial et tenir propre les trois points d'apport volontaires du Grand Mail. Sécuriser et résidentialiser les parkings du Grand Mail. Travailler les cheminements à pied et à vélo, comme le proposent les habitants. La Loire à vélo ne peut pas passer sur la dalle du Grand Mail. Voilà quelques propositions que nous soumettons et nous pensons que la consultation n'est pas finie pour savoir qu'est-ce qui se passera dans le cadre de cette rénovation urbaine à la Rabatterie. Maintenant, nous attendons les réunions de confirmation pour que chacun puisse encore s'exprimer. Et nous finissons avec l'interview de M. Jean Souris, ancien combattant, membre de l'ANAC, qui a été un des premiers à entrer à Oradour-sur-Glane.
Alors, Oradour, quand je suis entré dans la résistance armée, moi, la compagnie était en formation. C'est-à-dire que il y a le château de Morcheval. On occupait le château de Morcheval, la compagnie. Et il y avait dans ce château l'état-major FTP qui était là. Parce que l'état-major FTP, nous sommes en 44 là. Infanterie partisan français. L'état-major FTP avait évacué la ville de Limoges parce que la pression de l'ennemi était tellement forte qu'il y avait moyen de rien faire. J'avais 17 ans à ce moment-là. Hein. Donc, voilà. Or, ça se passait, si j'entrais le 1er juin, c'était à peu près le débarquement a lieu le 6 juin. Or, ce 10 juin 1944, nous étions, c'était un été bien sûr, on était sur une petite colline, et dans la nuit, les hommes de garde, puisqu'on montait la garde, il y avait de la garde, hein, notre camp était gardé, les routes qui accédaient étaient barrées, évidemment, hein, donc personne ne pouvait accéder à l'endroit où nous étions. Et on voit une lueur dans la nuit, une grosse lueur, on ne savait pas ce que c'était. Hein. On avait cette lueur, et le lendemain matin, on demande des volontaires pour aller voir ce qui s'était passé. Parce que l'information, entre nous, elle ne passait pas comme ça. Hein. Les téléphones et tout, on n'avait pas tout ça. Hein. On n'avait pas des moyens de communication comme l'armée aujourd'hui. Donc, on a appris par les agents de liaison que c'était qu'Oradou avait brûlé, mais il fallait aller voir ce qui s'était passé. Donc, on demandait volontaires. Et moi, j'étais toujours volontaire pour ce genre de choses. J'aimais ça. Hein. Donc, on est parti en camion une quinzaine. Et bon, c'est approché. Alors évidemment, quand on arrive à Oradour, c'est ce que j'explique des fois à la jeunesse. On n'est pas entré dans Oradour comme ça, là, hein, sachant que ça avait brûlé, on voyait bien hein, de loin que ça avait brûlé, et on savait pas si les Allemands y étaient ou y étaient pas. On était en guerre, hein, on faisait la guerre à ce moment-là. Donc j'ai été désigné avec un autre copain pour aller voir si les Allemands étaient sur des lieux. Donc voilà, on est parti, on est dans les fossés, tout ça, c'est la guerre. Et on écoute. Oui, on écoute s'il y a des bruits, si, si, si on n'entend rien, on avance. Et on s'est aperçu qu'apparemment, il n'y avait personne. Alors qu'il y avait quelqu'un. Enfin bref, à l'époque, on s'est dit, il n'y a personne. Moi, je me suis installé, je me suis mis sur la route de Radio sur Limoges, la route de Limoges, à côté, en face de l'église. Et le copain était installé, lui, à l'entrée de la route qui va au cimetière. Il était convenu qu'au bout de temps, si on n'avait pas donné un signe de quelque chose, si on avait été pris, on tirait. Donc il fallait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un. Mais comme on ne tirait pas, qu'il n'y avait rien, donc il n'y avait personne. Donc le camion est arrivé, entré, il a traversé tout le bourg, par la rue principale, et on a été détaché, il y avait une ferme qui n'avait pas brûlé, on a été détaché toutes les bêtes. Les vaches, les cochons et tout ça qui braillaient, là, tout le monde, là, ça meuglait de tous les côtés. Et voilà, on a détaché toutes les bêtes. Et à ce moment-là, on entend du bruit. C'est-à-dire, la compagnie SS, après avoir le massacre, ils ont été se réfugier à Nieul, précisément, où il y avait la garnison allemande. Ils étaient là, ils sont restés là 3 jours. C'est-à-dire qu'ils étaient à 7-8 kilomètres de nous. On stationnait, nous. Mais ils ne sont pas venus nous chercher, nous. On ne les intéressait pas. Hein. Donc, on entend des camions, on entend du bruit, des camions qui venaient. Et j'ai dit aux copains, j'ai dit oui, alors j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? On était loin, on ne pouvait pas se parler, mais on se faisait des signes. Et on s'est dit, si ça, dès que ça approche, on se sauve, nous. Mais les copains, avec leurs camions, reviennent. On a embarqué dans les camions et puis nous sommes repartis. Donc voilà, on était un des premiers à avoir pénétré au radeau après le massacre. C'était un silence, on dit le silence de mort, c'était le cas. Hein. Et je me trouvais là, moi j'ai pas eu l'idée d'aller voir dans l'église ce qui s'était passé. Hein. Imaginez un peu, vous voyez un village là qui fume encore, hein. Moi j'avais ma mitraillette, le doigt sur la gâchette, prêt à faire feu. On ne savait pas s'il pouvait y avoir des Allemands encore. Hein. Mais la mère Oufanche, Madame Oufanche, qui a survécu, qui avait sauté par le vasistas, par le vitrail de l'église, qui était cachée dans les petits pois du curé, elle a dû entendre du bruit, parce que notre camion, c'était un gazogène, il faisait du bruit. Donc, mais elle a cru sans doute que c'était les Allemands. Elle était cachée dans les petits pois, elle n'a pas bougé. Elle aurait su que c'était des résistants qui étaient là, elle aurait pu sortir. Donc elle a été découverte beaucoup plus tard. Donc voilà, nous sommes rentrés à la compagnie. Hein, c'est comme ça que moi, je suis entré la première fois dans Oradour-sur-Glane. Hein. Donc je précise quand même que j'ai participé ensuite à la construction de Oradour-sur-Glane. Et c'est là que j'ai fait connaissance de mon épouse. Qui a perdu 21 membres de sa famille, quand même, à Oradour-sur-Glane. Et j'avais un beau-frère qui faisait partie des 5 rescapés de la grange. Les 5 survivants qu'il y a eu, qui se sont, avec le petit Alsacien, ce sont les vrais rescapés du massacre d'Oradour-sur-Glane. Donc, mon beau-frère, il est décédé il y a longtemps, mais il est décédé de la suite, précisément, parce que d'après, il ne voulait jamais en parler de cela. Il aurait dû en parler. Et le fait de ne pas en parler, ça lui a provoqué un cancer du cerveau. Hein, donc voilà. Et les médecins ont toujours dit qu'il aurait fallu qu'il se confie, alors qu'il ne voulait jamais qu'on en parle de ce qui s'était passé. Donc voilà comment moi j'ai connu Oradour-sur-Glane.
Vous écoutez Radio Rabatterie, prenons la parole sur l'antenne de Radio Campus. 99.5 FM.
Rachid, continue ses études, va à la fac. Sa mère est fière depuis que le petit a eu son bac. C'est un crack en matinée. Il bosse le soir à côté. Repense à son frère qui lui un soir est mort d'une OD. Voler de ses propres ailes pour un jour atteindre les sommets. Un but, un objectif, en quelque sorte une barre au placé. Voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il croit jouable. Sortir du trou un jour, quitter ses tours moche et minable. Faut bosser sur la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent d'obus. La rue, le mythe du quartier nous a tous coulés. A fait tomber des frères qui le soir aimaient se saouler. Saouler, paver la plage, ici à Clarage. Des tags dans l'ascenseur et des cages d'escalier saccagées. Plus le reste là et plus le paysage est glauque, fade, le rend malade, il veut dégager. Faire péter les diplômes et se dépenser en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeaux. Y'a que des plans à balle 2 et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent au but. Il fonce, se défonce, après les cours il va au boulot. Quand il s'agit de travail, Rachid n'y va pas mollo. Le studieux doit payer le loyer de son studio. C'est un type courageux et qui en plus n'est pas idiot. Il sait quoi faire et comment faire pour voir le bout du tunnel. Y'a pas 36 solutions dans ce monde pourri et cruel. Faire son business avec les moyens du bord. Aujourd'hui dans le tiers car y'a qu'un mec sur trois qui s'en sort. Au coup du sort il croit pas, te dira que le vaitra est la seule manière pour un jour se sortir de là. Alors il continue et vite, la rue fait de son mieux. Il rêve à de l'espoir, il voudrait voir ses parents heureux. Eux qui n'avaient rien, qui sont venus de loin, qui ont fait des sacrifices pour nous mettre à l'abri du besoin. Rien ni personne ne peut changer le cours de l'histoire, excepté ses diplômes qui lui donneront du pouvoir. Faire péter les diplômes et ses pensées en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeau. Y'a que des plans à pas de et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent d'obus. Ma génération ne se fait guère trop d'illusions. Agis sans remords, agis sans se poser trop de questions. Lui s'en pose quand il voit ses copains sous hypnose. Voudrait bouger les choses et tout exploser. Nous sommes un bouclier donc aux dangers les plus exposés. Ce qu'il faut chez nous, des gars carrés qui deviennent agrégés. Se dégager de la mouise et viser plus haut. Enfin doubler la mise ou pour toujours rester triso. Prisonnier, il préfère raisonner, gaspiller ses forces. Dans ses études au lieu de traîner, rien foutre et bomber son torse. Sa force et son courage, la rage de sortir d'ici. Plus que d'ambition, lui il prend ça comme un défi. Faire péter les diplômes et ses pensées en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeau. Y'a que des plans à balle 2 et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent au but.